Voilà, on est aujourd'hui le 23 décembre et on est le 27 qui se lève. 27 qui se lève, 26 qui se lève. 27. Ce soir, on allume la troisième bougie. Donc, en tous les cas, on avait promis de faire le troisième et pour l'instant, dernier cours sur Hanouka. Et j'avais prévenu hier que le cours d'aujourd'hui serait sur, sur une question, la réponse à une question qui est très très connue. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'y a pas un Hanouka où dans mes cours je ne repose pas cette question. Et à chaque fois, on y répond plus ou moins d'une manière différente. La question classique, si les Grecs étaient à ce point dérangés par l'allumage de la Hanoukia, par l'allumage de la menorah, slicha, d'accord? Alors, pourquoi n'ont-ils pas pris toutes les fioles et ils les auraient jetées? Mieux que ça encore, pourquoi n'ont-ils pas pris la menorah pour la casser? Ils auraient pu donc prendre les fioles et les jeter par la fenêtre, la menorah et la casser. Alors, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose d'extrêmement bizarre. Ils ont laissé la menorah comme pour dire continuez à allumer Bevakasha. Ils ont laissé les fioles comme pour dire continuez à allumer Bevakasha. Mais seulement quoi? On va rendre impures les huiles. C'est extrêmement subtil comme notion parce que finalement l'huile est là, la menorah est là. Celui qui veut allumer peut techniquement allumer, mais il y a un problème, c'est que les huiles sont impures. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer par là? Alors, ici, derrière cette attaque des Grecs dans l'impureté des huiles, en vérité se dissimule toute la critique et toute l'idéologie critique et en même temps l'idéologie grecque contre Israël. Les Grecs, la philosophie grecque, ou la, on pourrait dire l'idéologie occidentale, puisque la philosophie grecque et les Grecs sont la racine du monde occidental, admet, parce que c'est une évidence, qu'il y a des différences entre des valeurs, entre des hommes, entre des systèmes. Et c'est clair que pas tout le monde est pareil et pas tout le monde est identique. C'est évident qu'on voit la différence, peu importe, c'est bien sûr pas une différence morale, mais on voit la différence entre un riche et un pauvre, entre un homme intelligent et un homme très limité sur le plan intellectuel, entre un homme fort et un homme faible, entre les hommes d'une génération et les hommes d'autres générations, entre les hommes de tel pays et les hommes d'autres pays. C'est clair qu'il y a des différences. C'est pas encore on porte pas encore un jugement moral, mais c'est clair qu'il y a une différence, et que c'est absolument impossible de trouver deux personnes complètement identiques. Après, il y a un problème moral en fonction de quoi tu vas définir la hiérarchie. Est-ce que c'est... Donc les différences sont objectives, mais les différences ne vont pas encore forcément impliquer une hiérarchie. Par exemple, il y a des riches, il y a des pauvres. C'est pas encore une raison suffisante pour dire que c'est les riches qui vont régner. La preuve, c'est que dans le système communiste, en théorie du moins, c'est les pauvres qui règnent. En théorie, en tous les cas. Donc, il y a une différence, il faut donc créer une hiérarchie. Donc, en fonction de cette différence, les Grecs avaient plus ou moins, comme on le sait, créé un système dans lequel les riches, intelligents et forts sont au pouvoir. Puisque dans le système grec, d'accord, arrivait au pouvoir celui qui avait la force, l'intelligence et l'argent. Bien que les Grecs sont aussi les précurseurs de la démocratie, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les Grecs avaient prévu un système où les chances sont plus ou moins équivalentes, mais tout le monde sait que la démocratie, en vérité, c'est un trompe-œil, et qu'en vérité, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, qui arrivent au pouvoir. C'est vrai que ce qui vient de se passer aux États-Unis dément tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est vrai que de temps à autre, on voit quelqu'un qui apparemment surgit du bas du peuple et peut arriver au pouvoir. Ben, c'est pas maintenant le sujet de dire si je me trompe ou je me trompe pas, mais disons comment.
C'est vrai que c'est, enfin, à l'origine, oui. À la racine, c'est c'était clairement discriminatoire. Le droit de vote n'était pas donné à tout le monde. Il n'y avait qu'une petite partie de la
population à laquelle ça faisait. Donc, tu confirmes encore plus que ce que je dis. C'est quand même la démocratie est de toute façon orientée. Mais j'ai même dans nos sociétés occidentales où la démocratie, entre parenthèses, n'est pas du tout orientée. Ça veut dire que tout le monde peut voter. Tout le monde sait que tout est déjà décidé à l'avance parce que tout est déjà préparé de telle manière que globalement le vote est dirigé vers là où on veut qu'il soit dirigé. Et tout simplement, comme on explique d'une manière plus intelligente que ce que je vais le faire, la démocratie est la plus intelligente de toutes les dictatures. Parce que tu domines les hommes sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont en vérité des esclaves. Mais en tous les cas, peu importe. Le système grec avait clairement établi des valeurs et des différences qui étaient fondées sur quelque chose qui est objectif. Après, on peut accepter ou non. On peut accepter que ce soit le riche, fort et intelligent qui domine. Mais en tous les cas, la différence qui va faire, on pourrait dire qui va créer la hiérarchie, elle est objective. Et voilà que les Grecs, lorsqu'ils découvrent le Am Israël, sont confrontés à un problème qui est complètement nouveau et qui les perturbe énormément. C'est qu'il y aurait une hiérarchie invisible qui ne repose pas sur des critères logiques objectifs. Voilà. Et là où ils vont véritablement buter contre ce problème, c'est le problème de ce qu'on appelle nous les lois de pureté et d'impureté. Touma et Tara. Vous avez devant vous deux fioles d'huile, les mêmes, identiques, la même fiole, la même huile, les deux huiles proviennent des mêmes olives, du même arbre. L'une est impure et tu ne peux en aucun cas l'utiliser pour servir au temple. Et si tu l'utilises, tu n'as rien fait. Non seulement tu n'as rien fait, mais tu as souillé, abîmé. Et mieux aurait valu carrément ne rien faire du tout. Mieux vaut ne pas allumer la menorah que de l'allumer avec des huiles impures. Et l'autre huile, sous prétexte qu'elle est pure, tu vas faire une mitzvah extraordinaire. Tu vas faire toutes les réparations que tu dois faire, tu vas lier le monde à Dieu, Dieu au monde, et tu vas amener la lumière dans le monde entier, puisque la menorah est donc le symbole, à travers l'aspect physique, de cette lumière divine qui se propage dans le monde. Quelle est la différence entre les deux? Les Grecs prennent les deux fioles, ils disent, je ne comprends pas quelle est la différence entre les deux. Alors on leur explique, il y en a une qui est pure, l'autre impure. Comment? Il y en a une qui est rentrée en contact avec un reptile mort, et l'autre pas. Bon, d'accord, je veux dire, et si on ne le sait pas qu'il y a un reptile mort qui a touché les deux, et même si on le sait après que le reptile mort a été enlevé, ça ne laisse pas de traces. Ils ont eu très peur de ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le Am Israël fixait une hiérarchie en fonction d'un monde et de lois complètement invisibles, impalpables, et qui échappent à la logique humaine. Et ça rendait fou les Grecs. On va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi? Parce que par définition, le Grec est celui qui veut comprendre, qui veut saisir, qui veut appréhender, intégrer, manger, digérer. Et voilà que tout d'un coup, il est face à un peuple qui lui dit que des choses absolument incroyables qui vont être déterminantes pour l'avenir du monde proviennent d'un monde invisible sur lequel tu n'as aucune maîtrise, que tu dois accepter, Nekouda, c'est comme ça. D'accord? Alors, pourquoi ça va beaucoup plus loin que ça? Parce que ce n'est pas seulement le problème de l'huile. Prenons un autre exemple très très connu dans la Torah, qui justement fait partie de la catégorie pure et impure. Les problèmes de nourriture cachère ou non cachère. Lorsque dans la Torah on parle de nourriture cachère ou non cachère, Le langage que la Torah utilise, ce n'est pas le langage « ça, ça vous est permis, ça vous est interdit ». Ce n'est pas ce langage-là uniquement. Mais c'est essentiellement « ça vous rend impur et ça est pur pour vous ». Le même langage que dans les lois de pureté et d'impureté, bien que là, il s'agit de nourriture. Et donnez-moi, et j'ai oublié de vous le demander, le Vayikra si vous le trouvez là-haut. Vayikra, il est là-bas, je le vois, non? Il n'est pas, tant pis pour moi. Bon, alors c'est pas grave. Et donc, c'est tant pis pour moi, ça apprendra à le préparer. Et donc, en tous les cas, Non, c'est pas celui-là. C'est pas grave, tant pis pour moi. En tout cas, c'est pas grave, je le connais par cœur. C'était juste pour pouvoir l'asseoir dans le texte. Vous vérifierez donc à la fin de Parshat Shmini, là où sont dans Vaïkra, donc dans le troisième livre de la Torah, là où sont données les lois sur la cacheroute. Toute la fin de la paracha parle donc des lois de la cacheroute. Et là-bas, sur une dizaine de versets, et déjà avant, la Torah insiste et insiste et insiste, d'accord ? Parce que je vous ai choisi du milieu des peuples, vous ne vous rendrez pas impurs avec la nourriture que je vous interdis, car tout celui qui mange cette nourriture se rend impur, ou metame et nafsho, il rend impur son âme, et c'est parce que je vous ai sorti d'Égypte et parce que je vous ai séparé des peuples que vous ne mangerez pas cette nourriture qui vous rend impur. Et je répète exprément, de manière exprès, parce que c'est ce que la Torah dit sans arrêt. Et comme vous êtes saints, vous vous sanctifierez. Kedoshim atem veit kadashtem. Vous êtes saints, vous vous sanctifierez. Et vous vous éloignerez de toutes ces nourritures qui sont pour vous impures. Alors là aussi, le problème, la Torah révèle ici quelque chose d'absolument incroyable. Si on n'avait pas ces versets, on pourrait croire que la Torah interdit certaines nourritures pour des raisons dont elle a le secret, peu importe. Les idiots vont dire que c'est pour des questions d'hygiène, les autres plus intelligents vont dire peut-être que ça crée des troubles psychologiques, etc., etc. Mais la véritable raison qui est donnée, c'est parce que c'est lié à des problèmes de Touma et de Tahara. Lorsqu'un juif mange kasher, à ce moment-là, il est tahor, il est pur, et lorsqu'il mange non kasher, il est impur, il est tamé. Les nations qui n'ont pas l'obligation de suivre ces règles-là sont malgré tout impures, tamées. D'où on le sait ? Parce que la Torah dit, comme vous êtes purs, je vous ai donc donné une nourriture spéciale pour vous séparer des nations. De là, tu comprends, c'est dans la, c'est parce que je voulais vous montrer dans le texte, c'est dans la mashmaout même du verset, que les nations qui, elles, ne sont pas séparées de cette nourriture, sont donc impures, tamées. Voilà. La seule différence, c'est que Dieu nous a ordonné à nous de sortir de cette impureté, et pas à eux. Si vous me posez la question, et pourquoi eux n'ont pas l'obligation de sortir de cette impureté, alors je répondrai, c'est lié à Hanouka, comme vous verrez par la suite, que chez nous aussi, il y a des choses que certains d'entre nous doivent respecter et d'autres ne sont pas obligés de le faire. Par exemple, un Kohen a l'interdiction de rentrer dans un cimetière ou de rentrer en contact avec l'impureté de mort. Un Israël, même un Lévi, n'a pas l'interdiction, a même la mitzvah de rentrer dans un cimetière pour rendre hommage et pour vénérer, pour honorer les morts, etc. Donc ce qui est une mitzvah chez l'un devient un interdit chez l'autre. Il y a d'autres choses que les Kohanim ont que nous n'avons pas. Par exemple, les Kohanim ont certaines nourritures qu'ils peuvent et doivent manger, et nous on ne peut pas, on ne doit pas les manger, etc. Voilà. Et donc, on a trouvé, même à l'intérieur du Ham Israël, une différence au niveau du comportement, au niveau de la nourriture, même d'une tribu à une autre. D'accord. Mais en tous les cas, maintenant, si je vois globalement par rapport au peuple juif et aux nations, la nourriture non cachère est une nourriture qui objectivement rend impure, simplement que les nations n'ont pas l'interdiction de se rendre impure avec cette nourriture, et les juifs ont l'interdiction de se rendre impure avec cette nourriture, comme les Kohanim, par rapport à nous, ont l'interdiction de rentrer dans un cimetière, parce que Dieu attend d'eux une élévation, une sensibilité spirituelle telle, que pour eux être en contact avec un mort, va leur empêcher de remplir leur mission. Pour nous aussi, Israël, on a une mission particulière à remplir, et cette nourriture qui est acceptable pour les nations va à nous empêcher de remplir notre mission. Alors quand les Grecs ont pris conscience de ça, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un Grec intelligent, moral, bon même, qui mange du lapin est impur. Un juif idiot, bête et méchant qui ne mange que du mouton est pur. Vous comprenez pourquoi je dis de cette manière-là? Je ne comprends pas. Cet homme-là, ce grec-là, il est intelligent, cultivé, gentil, bon. Mais je le dis sérieusement, d'accord? Et le fait d'avoir mangé du lapin ne va manifestement pas lui enlever ni son intelligence, ni sa bonté, ni sa finesse, etc. L'autre ne mange pas de lapin et il reste tout aussi idiot, bête et méchant. Et vous dites qu'il y a une différence dans le sens du juif par rapport au grec, que le juif est pur et le grec est impur. Là, ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et effectivement, quand les Grecs, on le sait, c'est rapporté comme ça dans tous les Sfarim qui passent cette période-là, au début, les Grecs n'ont pas été directement contre les Juifs. Il y a eu une très très longue période où ils se sont même intéressés à la culture et à la religion juive. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a traduit la Bible en grec. Et donc il y a eu, pendant longtemps, on pourrait dire, un flirt très serré entre la Grèce et Israël. C'est plus ou moins à cette époque-là réalisé le verset qui disait « Yaft Elohim le Yafet vayishkon beo aleshem » que Dieu a embelli Yafet et Yafet a une place dans la tente de Shem. Ça veut dire que Yafet s'est mis à rechercher, à comprendre la Torah. La Gemara raconte plusieurs histoires des Grecs qui posaient des questions, qui voulaient comprendre. Mais quand ils sont arrivés, justement à force d'étudier, ils sont arrivés à cette notion de la pureté et de l'impureté, à ce moment ils ont compris qu'ils touchent le cœur, l'essence même du judaïsme. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit non, là, il y a un problème grave. Qu'est-ce que c'est ce peuple qui crée une hiérarchie en fonction de critères que la logique ne peut pas comprendre? Comprenez le problème qui est? Très clair, très clair. Et on pourrait aller très très loin. On peut même montrer, c'est ce qu'ils ont montré, qu'apparemment les lois de pureté et d'impureté sont absurdes. Donnons un exemple. Une femme accouche, au moment où l'enfant sort, elle est impure. Et ça n'a rien à voir avec du sang. Puisque l'impureté de l'Eda, comme on l'appelle, l'impureté de mettre au monde, n'est pas liée à un sang qui coulerait, même si une femme, par exemple, ne saigne pas au moment de l'accouchement, supposons, d'accord? Le Talmud parle d'un cas pareil, donc c'est apparemment possible. Supposons une femme très spéciale qui n'aurait pas de déchirure ni rien, tout se dilate comme il faut et l'enfant sort sans blessure et sans sang. Malgré tout, elle est tmea. Comme une nida, comme une femme qui a ses périodes, par le fait même de la naissance. Alors là, les Grecs ont posé une question, je dis, je ne comprends pas. Là, elle est en train de donner la vie, elle n'est pas en train d'être en contact avec un mort. Elle n'est pas morte, elle ne touche pas un mort. Pourquoi, à ce moment-là, elle est impure? C'est absolument incompréhensible. Et puis, ils ont continué à étudier, ils ont dit, je ne comprends pas. Un serpent mort ne rend pas impur. Un serpent mort ne rend pas impur. Tu touches un serpent mort qui est le symbole pour tous les peuples du mal. Un serpent mort ne rend pas impur. Une vache morte qui pourtant est cachère, morte sans shrita, morte d'un coup de revolver ou morte d'une maladie, donc elle n'a pas eu la shrita. Une vache morte rend impure. Alors ce qui vous est permis, quand c'est mort, cadavre, vous le touchez, ça vous rend impur. Et le nachash, qui est le symbole de la faute, qui est le symbole du mal, même mort, vous le touchez, vous rend pas impur. Ils ont commencé à disjoncter. Ils ont dit, non seulement toute la notion de pureté et d'impureté, on ne peut pas l'accepter parce que elle repose sur des définitions du bien et du mal qui échappent à la compréhension humaine. Mais supposons même qu'on accepte ce principe-là, quand on commence à étudier les lois, on voit plein de contradictions, c'est complètement fou. Le serpent est pur et la vache est impure. On ne comprend rien. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que les Grecs ont fait? Ils ont dit, mais c'est pas grave, on va vous montrer qu'on n'est pas d'accord. D'accord. On va vous montrer que nous, on se fout totalement de vos lois de pureté et d'impureté. On ne vous empêche pas d'allumer la menorah. Adraba, allumez-la, mais avec des huiles qui, d'après vous, sont impures. Pour nous, c'est de la foutaise, elles sont ni pures ni impures, c'est de l'huile. Nekuda. Mais on va voir si vous êtes capable de passer outre vos bêtises. Et bien sûr, les juifs ont refusé d'allumer la menorah, alors que la menorah était là, que les huiles étaient là, il suffit seulement de faire le lien entre les deux, mais ils n'ont pas voulu. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Nes de Hanouka tourne autour justement de ce miracle de la fiole retrouvée, de la fiole pure, la fiole du Kohen Gadol. Et pourquoi justement, on pourrait dire, le miracle tourne autour de ça? Parce que le fait d'avoir retrouvé cette huile qui n'a pas été souillée, c'est le symbole de la victoire finalement de cette idéologie d'Israël sur l'idéologie des Grecs. Ça veut dire que finalement le Ham Israël est arrivé à prouver, à dévoiler que son système de valeurs était le vrai, était le bon, et que le système de valeurs donné par les Grecs était mauvais et était dangereux. Alors c'est ce qu'on va, en deuxième partie du cours, essayer d'expliquer très très brièvement. Pourquoi ? D'ailleurs, d'abord voyons l'avantage du système des Grecs. Et vous allez voir à quel point ça nous concerne nous tous. Le système grec, il a un avantage énorme. C'est que il est logique, fondé, concret. On peut en discuter, on peut l'expliquer, on peut accepter, on peut refuser. Il repose sur donc des normes humaines. C'est-à-dire, c'est quoi le système grec ? Une morale fondée sur le rationnel. Tous discutent. On peut très bien discuter sur le bien fondé que l'intelligence soit au-dessus du bête. On peut dire que ce n'est pas forcément juste. Mais en tout cas, il faut bien dire quelque chose. C'est ce qu'on a décidé. Ça se discute. Et si on est un petit peu démocrate, comme les Grecs, on acceptera même la contradiction. Et puis, ça prend une question de majorité, que la majorité l'emporte. Donc ça, c'est l'avantage. C'est que tu sais au moins sur quoi tu fondes ta morale et ton système social. Par contre, le défaut, qui est en vérité un danger, c'est qu'à partir du moment où ça repose sur une décision humaine, alors on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Parce qu'aujourd'hui, on va décider que c'est les riches qui dominent, ce n'est pas encore une catastrophe, d'accord ? Mais demain, on va décider que c'est, je ne sais pas moi, c'est les plus forts qui dominent. Ça, c'est déjà plus problématique parce que les plus forts ne sont pas forcément les plus intelligents, même les riches d'ailleurs non plus. Et puis, après, on va décider que c'est les voleurs. Et puis après, on va décider que c'est les violeurs. Après, on va décider que c'est les tueurs. Et puis après, on va décider que c'est les monstres. Et si vous me dites, mais c'est absolument impossible qu'on décide une chose pareille. On sait très bien que le fait de dire que c'est impossible, c'est une idiotie qui... terrible. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les systèmes de pensée évoluent et que ce qui paraissait impossible hier devient possible aujourd'hui. Vous imaginez que on aurait pu imaginer seulement il y a 100 ans que le peuple juif sur sa terre accepte de négocier sa ville sainte, Jérusalem. Il y a seulement encore 50 ans, s'il s'était levé un seul homme politique pour oser, même dans ses cauchemars, penser une chose pareille, on l'aurait enfermé dans un asile de fous. Aujourd'hui, on arrive presque à une situation où celui qui ose dire que ce n'est pas négociable, on le regarde comme un fou. Ce qui veut dire qu'on voit très bien que tout change. Est-ce qu'on aurait imaginé, il y a encore quelques décennies, que des juifs pourraient de leurs propres mains détruire ce qu'ils ont eux-mêmes construit sur leur terre, comme Gouche Katif ou ailleurs? Il y a 50 ans, c'était impensable. Les gens mouraient de faim et de soif et de chaleur pour planter un arbre sur cette terre. Et aujourd'hui, ils envoient leurs enfants pour détruire des milliers d'arbres et de maisons. Donc on voit très bien que tout est possible. Dès qu'il s'agit de l'intelligence humaine, tout se change, tout se transforme. Et donc c'est ça le danger, c'est pas la peine d'insister parce que tout le monde a compris à quel point c'est malheureusement combien vrai. Si tu fondes un système qui repose sur le rationnel évolue tous les jours plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui est rationnel aujourd'hui ne l'est plus demain. Mmh. Ce qui est irrationnel aujourd'hui devient rationnel demain. D'accord ? On a un exemple dans notre domaine, dans le domaine de la morale. Sans, là je dis sincèrement, sans vraiment vouloir faire même une allusion ironique à quelque chose de pervers ou pas. Un défilé gay. D'accord ? Je parle objectivement, je prends pas position. Un défilé gay. Il y a 50 ans, 100 ans, qui aurait imaginé que ce soit possible ? À Jérusalem, je pense que même un Zoulou, si tu lui avais dit, il y a 100 ans, qu'un jour, à Jérusalem, pour un peu qu'il sache ce que représente Jérusalem, il y aurait un défilé gay, il aurait dit, tout est possible, qu'un homme tue sa mère, la mange, c'est possible. Mais un défilé gay à Jérusalem, ça c'est pas possible. D'accord ? C'est oui possible, au point que si quelqu'un aujourd'hui ose s'insurger contre ça, il est regardé lui comme un fou. D'accord. J'avais dit à l'occasion, imaginez-vous qu'aujourd'hui, d'accord, comme on sait que malheureusement il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont avec des animaux, des chiens particulièrement, imaginez-vous qu'aujourd'hui se crée une association, d'accord, d'hommes qui vivent avec des chiennes ou de femmes qui vivent avec des chiens, il y en a des millions dans le monde, et déjà à l'époque de la Gemara interdisait déjà à l'époque de la Gemara à une femme de vivre avec un chien, d'accord, de peur que, et on sait que ça porte même un nom dans, voilà. Mais imaginez que aujourd'hui quelqu'un veuille créer une association, d'accord, homme-chien. D'accord ? Et il voudrait que cette association soit reconnue d'une manière respectable, avec pignon sur, etc. Aujourd'hui, je pense que même les gays vont dire qu'il est complètement fou. Ok ? Imaginez-vous que cette association se crée, que ta-ta-ta-ta-ta, et qu'elle demande de pouvoir défiler chaque femme avec son chien et chaque homme avec sa chienne. On dit, mais attends, mais c'est pas possible ça. Imaginez qu'ils demandent que ça se fasse à Jérusalem, protégé par la police et l'armée des Juifs. Celui qui ne croit pas que c'est possible, il n'a rien compris à l'histoire. Si le Mashiach ne vient pas avant, dans 50 ans, on a un défilé pareil à Jérusalem. C'est évident. Tout est possible. Il suffit de le vouloir, de changer les mentalités, et petit à petit, on aura dans 50 ans, le dimanche matin, défilé gay, dimanche après-midi, défilé chien, et dimanche soir, défilé des Chavri Knesset. Et le...
Une vitia.
C'est bien sûr que c'est possible. Donc c'est pour ça que la Torah refuse catégoriquement une morale fondée sur la raison. Parce que la raison, elle a toujours raison, et elle est capable de nous faire gober n'importe quoi.
Pourtant dans l'histoire, on a eu des adaptations dans le monde juif, au contexte socio-culturel.
100%, on va y arriver, la question elle est très juste, parce que c'est ce que je vais maintenant dire de l'autre côté. Alors qu'est-ce que propose la Torah ? La Torah propose un système dont le symbole, c'est les lois de pureté et d'impureté. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien, ça heurte ta logique, mais c'est comme ça, ça t'est imposé par une intelligence qui te transcende, celle de Dieu lui-même, qui t'impose ses valeurs, qui t'impose son sens moral, et qui te dit ça oui, ça non. Parce qu'à travers les règles de pureté et d'impureté, tout le monde comprend que c'est tout, on pourrait dire, l'édifice moral qui est mis en évidence. Et effectivement, on le sait très bien, dans la Torah, les règles morales ne sont pas forcément toujours dans le sens de la raison. Je reviens avec un exemple que j'ai déjà cité ici des centaines de fois. Un exemple parmi des milliers, si deux voisins ont tous les deux un jardin, d'accord, qui est séparé par une petite muraille, chacun voit ce qui se passe chez l'autre, et puis Shimon reçoit aujourd'hui sa famille, et puis il vient plus de monde que prévu, il lui manque des chaises de jardin. Alors il frappe chez Réhouven, peut dire, mon cher voisin, d'accord, tu ne pourrais pas me prêter une dizaine de chaises blanches ? D'accord ? Et Réhouven lui dit, ah, tu te trompes, moi j'ai pas de chaise blanche, hein. Il m'en manque à moi aussi. Bon, toi, t'es trop fier pour commencer à faire un problème. J'ai vu, j'ai pas vu, d'accord, espèce d'ordure, c'est pas grave. Rien. Tu rentres chez toi. D'accord. Très bien, tu dis rien. Mais comme la vie est une roue qui tourne, d'accord, un mois après, mon cher voisin reçoit lui aussi de la famille et lui, il lui manque une table blanche. Et j'en ai trois dans mon jardin. Et donc il vient, il toque à ma porte, il me dit, tu sais mon cher voisin, lui il a déjà oublié qu'un mois auparavant il m'a refusé les chaises. Tu sais mon cher voisin, ta table, j'en ai besoin. À ce moment-là, j'ai trois possibilités. La meilleure, je lui dis, mais il n'y a pas de problème, viens, tu veux que je t'aide à l'amener chez toi? Très bien. La deuxième, c'est un peu moins bon. Je te la prête, hein, mais je ne suis pas comme toi, moi, hein. D'accord. Et la dernière possibilité, non, comme tu ne m'as pas donné les chaises, tu n'auras pas la table. Alors, dans les deux derniers cas, nos maîtres disent que c'est aussi grave que si on mangeait du porc. Laissez la blague de celui qui, après 120 ans, arrive là-haut, et puis il y a le chemin des mangeurs de porc et le chemin des mangeurs cachers. Alors, évidemment, il a mangé badat toute sa vie, il se met sur le chemin du cachers. Il y a un ange qui vient et dit, non, vous êtes sur le chemin des mangeurs de porc. Et non, j'ai jamais mangé de porc de ma vie, j'aime pas quel coup ça. Et alors on lui explique, oui, tu as mangé du porc plusieurs fois dans ta vie, mais comment c'est possible? Mais qu'on lui dit, dans la mesure où tu étais rancunier, tu t'es vengé, etc., la Torah considère ça comme une faute de manger du porc. Donc pour nous, tu fais partie de la lignée du porc. Voilà. Et donc, puisque c'est le même interdit, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc ici, on voit que la Torah m'interdit d'être rancunier lorsque quelqu'un ne m'a pas rendu un service au niveau matériel. Et ça va jusqu'à l'interdiction de lui rappeler qu'il ne m'a pas rendu service, même si moi j'ai l'intention de lui rendre service. Tout le monde est d'accord que cette loi-là, elle est contre la logique. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous la super contre-argumentation à ce que dit la Torah. D'accord, pourquoi je serai une bonne poire, et pourquoi je vais me faire avoir, et pourquoi, etc. Au contraire, je vais lui apprendre à vivre, si je ne lui fais pas remarquer que, etc., etc. Comment? Alors, non, alors, Ochiar est amitecha, tu as parfaitement raison, d'accord. J'ai la possibilité, voire même le devoir, de le prendre à part et de lui dire pourquoi tu as fait, etc. Mais pas au moment où il est dans le besoin. Au moment où il est dans le besoin, je lui fais un grand sourire et je lui donne. Et si je veux, après, je lui dis, tu sais, maintenant je voudrais m'asseoir avec toi. Tu te rappelles que, etc. Ça, oui. Mais pas se servir de ça pour refuser le service. La Torah m'interdit de refuser un service contre un service. D'accord? C'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas logique. Ça, c'est par exemple une chose que la Torah m'interdit. Je vais prendre un autre exemple d'une interdiction, cette fois-ci terrible de la Torah, terrible. On est tellement habitué à l'entendre qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est complètement illogique. Terrible au point que celui qui transgresse n'aurait pas mérité de sortir d'Égypte et ne méritera pas la résurrection. Vous imaginez pour un juif ne pas mériter la résurrection? Celui qui prête son argent avec intérêt. Pourquoi c'est complètement illogique? Parce que qu'est-ce que je fais de mal? Attends, cet argent, s'il était resté chez moi, j'aurais travaillé avec. J'aurais fait des affaires avec. Je te demande uniquement ce que cet argent m'aurait rapporté. Placé dans ma banque, il me rapporte 3%. Tu le veux? Donne-moi les 3%. Je te vole? Pourquoi tu veux que je perde pour toi? Cet argent, je l'aurais placé, il m'aurait rapporté 20%. J'aurais ouvert un magasin, j'aurais acheté un appartement, j'aurais eu un loyer. 1 000 $ tous les mois, j'aurais eu avec ces 100 000 $ placés. Rends-moi mes 100 000 $ plus les 1 000 $ par mois, concurrence du temps que cet argent va rester chez toi. C'est ce que j'étais prêt à faire. Qu'est-ce qu'il y a de méchant là-dedans? Je suis un voleur, j'ai fait le mal. La Torah non seulement me l'interdit, mais me refuse la résurrection. Chose que même un tueur Tenez-vous bien, même quelqu'un qui a assassiné une personne, il n'est pas dit sur lui qu'une fois qu'il aura reçu sa punition, etc., il n'a pas de part au monde futur. Il est dit même exactement le contraire. Tout celui qui est condamné à mort, donc pour une faute grave, qui avant la condamnation à mort regrette et demande pardon, il a part au monde futur. Et celui qui a tout simplement réclamé son dû, il n'a pas de part au monde futur.
Je comprends.
Bon, la vraie teshuva, bien sûr, s'il fait teshuva, mais ça ne suffit pas de demander pardon.
Mais
il peut faire teshuva, effectivement. Mais il s'agit d'une vraie teshuva.
Comment ? Il a fait ça sans savoir.
Bon, alors c'est comme toute faute, c'est plus à notre niveau. Je prends le cas étalon où il le sait, bien sûr. Maintenant, s'il ne sait pas, il y a des milliards de choses qu'on fait dans sa vie parce qu'on ne sait pas. Quand on apprend, après on corrige. Donc, en tous les cas, un autre exemple. Et je pourrais m'étaler, vous montrer combien la Torah a un sens moral qui est maintenant. Donnons un autre exemple où là, le sens moral de la Torah va à nouveau à l'extrême opposé du sens moral grec. Parce que vous avez tous compris que dans les deux premiers exemples que j'ai donnés, le sens moral grec dit exactement le contraire. On t'a pas rendu service, ne rends pas service, t'es pas la bonne poire de ton voisin. Tu as de l'argent qui te rapporte quelque chose, tu veux le prêter, qu'il te redonne au moins ce que tu aurais gagné. Très bien. Maintenant, autre cas où le sens grec, logique, va aller à l'encontre de la Torah. D'accord ? Une personne rentre, je suis en train de dormir, d'accord ? Il est 1h du matin et tout d'un coup j'entends du bruit en bas. Je devine que c'était un voleur. Ouh là là, un voleur chez moi dans ma maison. C'est pas grave, je suis un ancien colonel de l'armée israélienne. J'ai pas de problème. J'ai un revolver à portée de la main. Je sais descendre l'escalier sans faire du bruit car j'ai été mêlé à de nombreuses opérations commando. Je descends sans faire le moindre bruit. Je l'attends de l'autre côté de l'armoire. Le pauvre, il ne fait que rentrer. Dishma Israël, pan dans la tête. Sans autre forme de procès. Tout celui qui rentre chez moi pour me voler, je ne lui pose pas la question, dis-moi, tu avais l'intention de me faire du mal ou pas ? Je le prends par derrière et je tire dessus. Je rajoute, bien sûr, cette loi est absolument impossible à appliquer aujourd'hui dans le contexte du monde occidental, mais en tout cas dans le contexte d'un monde... Alors ça commence à être accepté un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que même le monde grec commence à comprendre que la Torah a raison. Mais dans le contexte de la Torah pure, qui n'est pas applicable aujourd'hui, la Torah me dit la chose suivante. Tout celui qui rentre chez toi pour te voler doit savoir qu'il met sa vie en danger. Et tu ne lui fais pas de cadeau. Pourquoi ? Parce que si tu lui fais trop de cadeaux, c'est lui qui aura ta peau. Combien de personnes se sont fait tuer par le voleur qui, surpris, a paniqué, a sorti un revolver, a sorti un couteau pour s'échapper, à tuer le propriétaire ? Donc pour ne pas prendre le risque, tire le premier. Et même dans le dos. Ouais. Et non, la preuve, c'est que tous les systèmes grecs aujourd'hui ne tiennent pas cette loi. Et jusqu'au dernier scandale qu'il y a eu en Israël, où le bonhomme, le fermier, a passé plusieurs mois en prison, et c'est pas évident. Le système grec ne voit pas ce... Mais c'est d'air. En tous les cas, pendant des décennies, le système grec considérait que c'était un assassinat de faire une chose pareille, et dans le système juif, depuis toujours, c'est considéré comme un devoir de tirer sur le voleur qui rentre chez toi. Et on pourrait montrer des exemples ensof. Donc, oui.
Ça a aussi évolué dans le système occidental, parce qu'il y a quoi, il y a 100 ans ou quelque chose, peut-être 200 ans, en Angleterre, le voleur, il était condamné à mort. Donc,
aujourd'hui, les voleurs en Arabie Saoudite, on lui coupe les mains.
C'est intéressant parce que les deux cas que vous prenez, vous, couper la main en Arabie Saoudite ou en Angleterre, il y a 100 ans tué, dans la Torah, on revient encore une fois à une différence. On ne fait pas de mal à un voleur une fois qu'il a volé. Ni on lui coupe la main, ni on le flagelle, ni on le met en prison, ni on le... on le surveille, on voit ce qu'on peut faire avec lui. Mais il n'y a pas, on pourrait dire dans la Torah, on n'a pas prévu une punition corporelle sur le voleur. Il a volé. Par contre, avant, il se met jusqu'à en danger de mort. Donc là aussi, c'est, si on va jusqu'au bout, c'est extrêmement choquant, parce que soit on coupe la main, soit on met en prison, soit on tue. Mais personne ne dit qu'on tue a priori. Chez nous, on tue a priori, mais s'il a volé et qu'on l'attrape, je ne dirais pas qu'on le laisse en liberté. C'est certainement pas comme ça. Mais disons que c'est pas évident qu'on doit lui faire du mal sur le plan physique. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, je reviens maintenant donc à ce qu'on a expliqué. Les valeurs morales de la Torah se fondent sur une intelligence qui est complètement au-dessus de l'intelligence humaine et qui, au regard de l'intelligence humaine, peut très souvent être considérée comme illogique et irrationnelle. Alors, l'avantage est, c'est bien sûr le contraire du défaut du système grec, l'avantage est que ces lois sont, entre parenthèses, immuables, puisqu'elles ne dépendent pas de mon appréciation, elles ne dépendent pas de ma compréhension, elles ne dépendent pas de mon système logique et cartésien. Donc automatiquement, ces lois-là me transcendent, elles ne peuvent pas changer, et ne pouvant pas changer, on n'a pas le risque de voir un jour les hommes dire qu'il est tout à fait normal et moral de défiler à Jérusalem un homme et sa chienne. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas de risque d'évolution comme celui-là. Puisque dès le départ, j'ai pas de mainmise sur le sens moral. Ça, c'est l'avantage énorme. L'inconvénient est, c'est que à force d'être complètement déconnecté de l'homme, on risque aussi de perdre toute sensibilité morale et de devenir comme des robots qui accomplissons, on pourrait dire, la loi comme un automatisme sans aucune, on pourrait dire, sans aucune sensibilité. Puisque de toute façon, je ne comprends pas, alors bon, Dieu a dit, je fais, nekuda, ce qu'on appelle la rigidité de la loi, la rigidité de la lettre. On a donc compris que les deux systèmes ont un défaut et une qualité. Si j'ose dire, le défaut qu'il y a dans la Torah, kaviachol, bien sûr que ce n'est pas un défaut, ce que je vais démontrer, mais ce qui pourrait être un défaut, c'est que l'homme reste complètement extérieur à ça. Alors de là vient justement, et c'est la dernière partie du cours et des cours sur Hanouka, la réponse à votre question. On sait que historiquement, dans l'histoire, la période de Hanouka a été celle qui a marqué le début véritable, la naissance de ce qu'on appelle la Torah Shebealpé, la loi orale, les discussions des maîtres et d'une certaine manière les écoles de Mishnah et du Talmud, qui ont donné à la Torah cette dimension, on pourrait dire, de discussion, de remise en cause, de questionnement, de réponse, et que tout peut être discuté, que tout peut être demandé, comme on le voit dans le Talmud, où à peine une idée émise, elle est déjà contredite, et une fois que la contradiction est établie, cette même contradiction est elle-même détruite par... et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Adensof. C'est l'océan infini de discussion qu'est le Talmud. Et c'est précisément à cette époque-là que naît la Torah Shebealpé. Pour bien nous montrer justement l'équilibre et la perfection de la Torah d'Israël. D'un côté, elle se présente comme une loi rigide, immuable, qui se fout totalement de ma compréhension et qui presque, en faisant exprès, heurte ma logique pour bien me montrer que ça ne dépend pas de ce que je comprends ou non. Mais d'un autre côté, pour pouvoir justement équilibrer cette dictature spirituelle, cette dictature bénéfique, comme je l'ai expliqué, pour pouvoir justifier, pour pouvoir supporter cette dictature spirituelle, à ce moment-là, il y a toute cette floraison inimaginable, comme on voit dans aucune religion au monde, cette floraison inimaginable de discussions d'avis contraires. Importe que le... J'avais eu l'occasion comme ça, il y a... De très très comment ?
Mais sans avis définitif, que des discussions.
Et dans le Talmud, c'est jamais tranché finalement. Alors bien sûr, on arrive après au Shulchan Arour. Mais même quand tu arrives au Shulchan Arour, il y a encore jusqu'à aujourd'hui.
C'est la différence.
C'est sans fin.
Qui sont définitifs pour eux, mais qui sont toujours remis en question et qui redeviennent définitifs à chaque fois.
Ouais, exactement. Ça veut dire que exactement. Dans les autres systèmes, tu as une loi qui est définitive à un moment donné. C'est la loi, d'accord ? Mais c'est très bien qu'on dise cette loi-là, demain, Changer. Elle changera et elle sera exactement le contraire. Donc elle est toujours immuable, mais pour 5 minutes. Alors que chez nous, c'est dans le contraire. On a des lois immuables pour l'éternité, mais dans le vécu, dans le quotidien, on en discute sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On ne sait jamais où ça commence et ça termine. C'est une sorte, on peut dire, de magie, on peut dire d'union entre deux contraires. L'immuable de la loi divine et le questionnement humain qui remet toujours tout en cause. Alors comment ça se gère, puisqu'on peut poser toutes les questions, on peut tout discuter, comme on le voit dans le Talmud, alors où ça commence, où ça s'arrête. Alors ça, c'est le génie d'Israël. Qu'est-ce que c'est en vérité le génie d'Israël? La capacité de pouvoir discuter, questionner, interroger, mais sans porter atteinte à l'essence qui est immuable. C'est-à-dire que on peut trouver dans le Talmud un exemple, 10 avis contraires sur la manière de mettre les tefilines, mais tout le monde est d'accord que il faut mettre les tefilines. On peut trouver 1000 avis différents et contraires sur le temps qu'il faut attendre entre le lait et la viande, mais tout le monde est d'accord qu'il faut attendre entre le lait et la viande. Et les maîtres d'Israël ont été capables de définir ce qui est l'essentiel et ce qui est discutable. Et l'union entre les deux, c'est ça la force de l'âme juive. Parce qu'un juif ne se sent jamais ni complètement libre, ni complètement aliéné. Il sent qu'il est dans un équilibre subtil entre les deux, parce que d'un côté, il a l'immuable de la loi qui lui rappelle constamment la rigidité de la vérité, mais d'un autre côté, il a toutes les discussions et toutes les remises en cause des maîtres d'Israël de génération en génération qui lui procurent ce sentiment de liberté intense et finalement la fuite devant le dogme. Il n'y a pas de dogme chez nous, ça n'existe pas le dogme.
Alors, on a vu avec l'exemple de la Shemitah maintenant qu'il y a eu ce controverse, finalement il y a eu des gens qui étaient...
Il y avait tous les avis possibles sur la Shemitah, et même dans le monde Haridi, c'était partagé, etc. Précisément cette année, on a vu effectivement le problème de la Shemitah, énormément d'avis contraires. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Alors maintenant, bien sûr, il faut qu'on soit en présence de maître authentique, parce que c'est seulement le maître authentique qui lui est capable justement de savoir où commence et s'arrête l'immuable, où commence et s'arrête le discutable, et où est la synthèse entre les deux. Alors c'est évident que si c'est n'importe qui, n'importe quel débutant qui ne comprend rien et qui s'amuse alors soit il va verser trop dans la liberté, soit il va verser trop dans la rigidité. Il faut donc un vrai maître pour savoir où sont les choses. Mais dans chaque génération, on trouve bien sûr ces maîtres authentiques, avec toutes les nuances selon la génération, qui arrivent à surfer justement sur ce pont très très étroit qui se trouve entre le précipice de la liberté totale ou le précipice de la rigidité totale. Et ça, c'est justement la victoire de Hanouka. La victoire de Hanouka, ça a justement été en même temps la naissance de la Torah chez Béalpé avec la réaffirmation des lois de pureté et d'impureté. Oui, nous avons tenu le coup. Nous avons refusé d'allumer avec la même huile, sauf qu'on ne voyait pas qu'elle était impure. Et comme pour bien montrer qu'on avait eu raison de faire ce choix fou, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a mis de côté une petite fiole, qui était la fiole du Kohen Gadol, qui elle n'avait pas été trouvée par les Grecs et qui était restée pure.
C'est celle de Jacob?
C'est... Non, bon, peut-être qu'il y a une tradition qui dit qu'elle remonte à trop, celle du Kohen Gadol. Alors pourquoi justement celle du Kohen Gadol? Pourquoi on ne dit pas qu'on a retrouvé une fiole des Kohanim? Pourquoi précisément la fiole du Kohen Gadol? Alors, parce que justement, parmi tous les, on pourrait dire toute la hiérarchie, entre parenthèses, à l'intérieur du peuple juif, celui qui est soumis un maximum de lois, on pourrait dire, complètement abstraites et invisibles, et qui font qu'il a le statut de Kohen Gadol, c'est justement cette personne-là. Qui, en vérité, le Kohen Gadol par rapport à nous, simple Israël, est aussi loin au niveau des lois que nous le sommes, nous, par rapport aux nations. Ça veut dire qu'il y a la même distance au niveau, on pourrait dire, des lois qui nous concernent, nous, par rapport aux nations, et des lois qui le concernent, lui, par rapport à nous. Par exemple, le Kohen Gadol a une loi folle, peut-être la plus folle de toutes, qui montre à quel point, je veux dire, on ne comprend rien et il n'y a rien à comprendre au niveau de l'immuable. C'est que le Kohen Gadol perd sa mère, son père, un fils, une fille, un frère, une sœur ou son épouse. Il n'a même pas le droit de sortir du temple pour simplement, je ne dis même pas aller au cimetière, simplement... comment dire, faire la levaya, la, comment on appelle ça, la, l'accompagner. Même ça, il n'a pas le droit de se mêler à l'accompagnement du mort vers sa dernière demeure. Il doit rester au temple.
Comment ? Il se met derrière tout le monde ?
Non, pas le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, non. Kohen Gadol, il ne sort pas du Mikdash. Il ne sort pas. On s'est fou quand même.
Non, c'est des
ça veut dire que la Torah l'a séparé complètement du commun des mortels. C'est-à-dire que la distance entre le Kohen Gadol et nous est aussi grande, elle est du même type que la distance entre Israël et les nations. Comme pour nous faire comprendre que finalement cette hiérarchie imposée par la Torah, elle est infinie. Puisque même à l'intérieur du peuple juif, tu peux la retrouver sans fin. Et on peut imaginer que le Kohen Gadol d'aujourd'hui, c'est rien par rapport au Kohen Gadol du troisième temple, etc., etc. C'est-à-dire qu'une fois que tu admets le système, il est infini.
Tout Kohen Gadol qu'il était, il était marié, il avait des enfants, il avait une vie équilibrée.
Il n'était
pas en dehors du temps, ni du monde, ni de la matérialité.
Non, c'est absolument.
Il forme aussi la synthèse entre...
Absolument, Chazak. Jéris qui dit, et bien que le Kohen Gadol, sur certains plans, était complètement, on pourrait dire, déconnecté de la réalité. D'un autre côté, il est marié, il a des enfants, etc. Plus que ça encore, le Kohen Gadol, le jour le plus déconnecté de l'année, qui est le jour de Kippour, d'accord ? Par quoi commence, donc l'homme, entre parenthèses, le plus déconnecté, le jour le plus déconnecté de la réalité matérielle, bien sûr, parce qu'on ne mange pas, on est comme des anges, etc. Par quoi commence la première Mishnah du traité Yoma qui parle des lois de Yom Kippour ? Par le fait qu'il faut absolument que le Kohen Gadol soit marié le jour de Kippour, sinon il ne peut pas servir au temple. Et jusqu'à la vie de Rabbi Yehuda qui dit que on lui prépare une seconde femme au cas où mourrait la première en plein Kippour, qui ne serait pas une minute sans femme. Pourquoi cette fixation sur le fait que le Kohen Gadol soit marié, au point de prévoir, et si jamais, etc. Bon, le pshat est le pshat, mais au niveau du sens profond, c'est exactement ce que vous dites. Comme pour nous faire comprendre, attention, là encore on retrouve la synthèse et l'équilibre. Bien que d'un côté, on le sort complètement, on pourrait dire, d'une sensibilité humaine standard, au point qu'on ne laisse même pas participer à l'enterrement d'un proche parent, de manière à mettre en évidence qu'il est complètement consacré à... Malgré tout, on n'oublie pas l'autre pan indispensable de la relation avec le monde qui s'exprime par le mariage, les enfants et la famille. Et donc c'est pour ça qu'on insiste pour dire que, en tout cas de figure, la première chose à laquelle on doit se soucier, c'est qu'il soit marié et qu'au moins dans ce domaine-là, il ait véritablement les pieds sur terre. Donc je pense que comment ?
Je continue. Autre chose, le Kohen Gadol... On prépare un deuxième Kohen Gadol.
Au cas où
il se passerait quelque chose au moment. Et donc il faut le tirer. Et comment on le tire ? On l'enchaîne. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, donc on le tire avec ses chaînes et on prépare un deuxième Kohen Gadol qui rentre pour faire la prière et demander le pardon. Donc on va. Donc tout Kohen Gadol qu'il est. Il reste un homme.
On prévoit qu'il est mortel. Absolument. Absolument, Kazak. Tov, Atkan pour aujourd'hui.